Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardeau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Les flux migratoires, c'est un problème très aigu, très grave, et l'Union s'est dotée d'une politique migratoire au début des années 2000. Alors qu'en est-il de la gestion des flux migratoires vers l'Europe, Daniel ?
Alors la gestion des flux immigratoires, puisqu'il s'agit vers l'Europe, est aujourd'hui largement communautarisée. Cette communautarisation s'inscrit dans des feuilles de route successives. En 2008, dans la lancée de Lisbonne, c'était sous présidence française d'ailleurs, le pacte européen sur l'immigration et l'asile vise à harmoniser les politiques d'immigration et d'asile au sein de l'Union. Ce pacte est bâti sur deux axes thématiques, l'immigration choisie et l'Europe de l'asile, mais ce pacte n'est pas contraignant. En 2014, le Conseil définit les orientations stratégiques de la politique migratoire pour la période 2014-2019. C'est un ensemble de lignes directrices qui constituent une sorte de deuxième pacte européen, même s'il ne s'appelle pas comme cela. Il s'agit de forger une approche globale de la migration, j'ouvre les guillemets, utilisant au mieux la migration légale, offrant protection à ceux qui en ont besoin, luttant contre la migration irrégulière et gérant les frontières avec efficacité, et on ferme les guillemets.
Bon, alors, comment cette gestion communautarisée s'effectue-t-elle ?
Alors, s'agissant de l'immigration et de l'immigrant, l'Union fournit aux États une boîte à outils faite de normes, de procédures que ces États utilisent à leur gré selon trois axes stratégiques. Premier axe, encadrer l'immigration légale au travers, par exemple, de la définition du statut de longue durée. Mais, je le rappelle, le volume d'entrée reste de la souveraineté des États. Deuxième axe, lutter contre l'immigration illégale avec par exemple la directive retour des clandestins 2008 ou les accords de réadmission, etc. Mais l'exécution reste nationale. Troisième axe et dernier axe, favoriser l'intégration en facilitant la coopération des États par la MOC, méthode ouverte de coordination, mais cela dépend du bon vouloir des États. Concernant les contrôles aux frontières, l'Union met en place une gestion intégrée grâce à plusieurs outils. Premier outil, des codes pour définir les modalités et harmoniser les pratiques. Alors le code frontière Schengen qui précise aux frontières extérieures les conditions d'entrée, de refus d'entrée, les effectifs, les moyens affectés au contrôle et aux frontières intérieures, la suppression du contrôle, la réintégration temporaire du contrôle, etc. Code des visas pour la procédure et la délivrance de visas, notamment de court séjour, c'est-à-dire moins de 90 jours par période de 180 jours. Deuxième outil, des systèmes d'information sous forme de bases de données européennes permettant de mutualiser l'information. Alors, il y a le SIS, Système d'information Schengen, qui permet le partage entre autorités compétentes d'informations sur des personnes recherchées, disparues, des objets ou des véhicules volés, etc. Il y a le VIS, Système d'information des visas, qui est une base de données biographiques et biométriques des personnes ayant introduit une demande de visa Schengen. En 2019, 1 500 000 demandes mensuelles. De visa. Et puis il y a Eurodac, qui est une base de données qui permet de comparer les empreintes digitales des demandeurs d'asile enregistrés dans les États membres de l'Union. Troisième et dernier outil, des systèmes de surveillance opérationnelle. Alors Frontex, bien sûr, dont nous avons déjà parlé, créé en 2004, en activité en 2005, dont le siège est à Varsovie, et qui est investi de 6 missions. Première mission, coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres dans la gestion des frontières extérieures. Assister les États membres pour la formation des gardes-frontières nationaux. Procéder à l'analyse des risques sur la base d'un modèle conçu par l'agence, en collaboration avec Europol. Suivre l'évolution de la recherche dans les domaines intéressant à la surveillance des frontières. Apporter une assistance technique et opérationnelle dans certaines situations spécifiques. Et enfin, fournir l'appui nécessaire pour les opérations de retour conjoint. Deuxième système de surveillance, plus récent, celui-ci, Eurosur, qui participe à la surveillance des frontières par des moyens techniques sophistiqués de détection des mouvements irréguliers avec interconnexion des systèmes nationaux de surveillance et fonctionnement assuré par Frontex.
Bon, alors, en matière d'asile, on a vu l'immigration et maintenant l'asile. Alors, qu'en est-il et comment est-ce que la communautarisation s'occupe-t-elle des demandes d'asile ?
Alors, en matière d'asile, l'Union a défini un régime d'asile commun, ça s'appelle le RAEC, en 2013, et qui évidemment vise une harmonisation législative composée principalement de 4 directives et 2 règlements. Première directive, la directive protection temporaire, qui définit les normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et qui prévoit des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. La deuxième directive, c'est la directive procédure, qui définit les normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Troisième directive, la directive qualification, qui porte sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou bénéficier d'une protection subsidiaire. La quatrième directive, la directive accueil, établit des normes minimales, matérielles, soins médicaux, unités familiales, etc., pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres de l'UE. Alors, les deux règlements maintenant, l'un est assez connu, du moins connu de nom, si ce n'est connu dans sa teneur, c'est le fameux règlement de Dublin. On est aujourd'hui à Dublin 3. Le règlement de Dublin, il établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. Le second règlement, le règlement Eurodac, lui, il crée ce qu'on appelle le système Eurodac, qui, par la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et des ressortissants de pays tiers, permet de déterminer plus facilement l'État membre de l'UE responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Alors, à ces outils législatifs, hein, tout ça est un peu réparatif, mais ce sont les outils de l'UE. Hein. À ces outils législatifs, l'UE ajoute d'autres instruments. Instruments techniques, le bureau d'appui en matière d'asile, qui fournit des informations sur les pays de départ, sur les méthodes d'analyse, de formation, etc. Instruments financiers, deux fonds, le fonds Asile, Migration et Intégration, FAMI, hein, c'est l'acronyme FAMI, et le Fonds de sécurité intérieure qui s'occupe des frontières et des visas. Alors, vous voyez, Jean-François, même si tout ça est effectivement un peu laborieux, bien sûr, à exposer, les instruments de la politique migratoire sont en place. Et pourtant, ils sont en place déjà pratiquement depuis 10 ans. Et pourtant, on parle de crise de la politique d'immigration de l'UE.